France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, ils se sont croisés la première fois en juin 1876 dans la petite salle du Musik Verein où les élèves en composition faisaient entendre leurs travaux. Lui, étudiant au conservatoire de Vienne, de 16 ans, elle, jeune femme mariée de 18 ans. Gustav Mahler et Nathalie Bauer-Lechner se retrouveront au gré des réunions d'artistes et intellectuels avant de devenir amis et de se côtoyer durant une dizaine d'années. C'est la relation entre ces deux êtres qui se comprenaient si bien qu'Evelyne Bogdano, mon invitée, a retracé dans un récit personnel qui nous mène dans la Vienne de la fin du 19e et du début du 20e siècle. L'âme sœur, Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler, d'Evelyne Bogdano chez Stock.
Kuckuck hat sich zu Tode gefallen an einer grünen Weiden, Weiden, Weiden. Kuckuck ist tot, hat sich zu Tod gefallen. Wir sollen uns denn den Sommer lang die Zeit und den Wein vertreiben. Kuckuck, Kuckuck, wir sollen uns denn den Sommer lang die Zeit und den Wein vertreiben. Ei, das sollt um Frau Nachtigall, die sitzt auf grünen Zweigen, die kleine feine Nachtigall. Sie singt und springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schweigen. Wir warten auf Frau Nachtigall, die wohnt im grünen Hage, und wenn der Kuckuck zu Ende ist, dann fängt sie an zu schlagen.
Boscovus bariton, Stefan Vladar au piano, c'était un des leaders de jeunesse de Gustav Mahler, Ablösung im Sommer. Bonjour Evelyne Bogdano.
Bonjour.
Vous êtes donc l'autrice de ce livre, L'âme sœur, Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler. On connaît évidemment très bien le second, un peu moins la première, sauf si on a lu des biographies un peu détaillées du compositeur. Qu'est-ce que vous cherchiez à découvrir, à savoir, quand vous avez entrepris ce récit, ce travail qui s'apparente un peu à une quête, puisque vous êtes parti sur les traces de Mahler dans sa ville natale, à Caliste, au Caliste, je ne sais pas comment il faut dire aujourd'hui, selon l'orthographe moderne, et puis jusqu'à Iglau, enfin en République tchèque, et puis après à Vienne. Qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous cherchiez en fait quand vous êtes parti sur les traces d'abord de Mahler et ensuite de Mahler et de son amitié avec Nathalie Bauer-Lechner?
En fait, tout a commencé de façon assez surprenante. Deux amies musiciennes, Annelise Gastaldi et Virginie Buscaille, qui constitue avec Diana Ligeti le trio Cendre, m'ont proposé un projet commun. Et elles m'ont dit, voilà, on te laisse choisir, on te fait écouter deux morceaux. Il y avait une sonate de Mozart et l'adagietto de Mahler. Et tu choisis et on part sur quelque chose ensemble. D'emblée, j'avoue, éliminer Mozart, parce que je ne me sens pas à la hauteur, c'est pas que je sois à la hauteur de Mahler, mais bon, ça me parlait un petit peu plus, disons, le contexte. Et voilà, et ça a été parti comme ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à la vie de Mahler, que je connaissais finalement très peu. En effet, la bohème, et la Moravie, Jihlava, l'ancien Iglau, oui, etc. Et donc c'était plutôt cette ligne-là, mais de façon, de manière tout à fait incidente, si vous voulez. Ouais. Et puis, Le sujet m'a passionnée, mais je me suis évidemment rendu compte que c'était un sujet qui me demandait peut-être une forme de culture musicale que je n'avais pas totalement. Mais surtout, j'ai rencontré Nathalie Bauer-Lechner sur mon chemin. Mmh. Or, j'ai écrit un certain nombre de livres, de biographies littéraires, de récits sur des femmes, mmh. et souvent des femmes qu'on ne connaissait pas du tout, dont on ne connaissait pas la vie. Ça a été le cas de Madame Proust, l'épouse de Zola, etc. Mmh. Et là, avec Nathalie, j'ai eu la surprise de m'apercevoir que même dans les biographies très complètes de Mahler, il n'y avait pas grand-chose. Et surtout, tout s'arrêtait à partir du moment où Mahler et elle s'étaient, on va dire, perdu de vue. En tout cas,
c'est ça.
Sinon, perdu de vue, ne se voyaient plus
De façon aussi, aussi régulière.
Exactement. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, ça m'a passionnée.
Bonnet, l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Ricardo Chailly. C'était un extrait des Knaben Wunderhorn de Mahler, le Verlorene Mu. Evelyne Bloch-Dano, alors, qui est en fait cette Nathalie Bauer-Lechner? D'où vient-elle? De quel milieu est-elle issue?
C'est une viennoise.
Ouais.
Ses parents, son père, tenait la plus grande librairie universitaire de Vienne, sur le Graben, et on peut dire que c'est un milieu très cultivé, où on aime l'art. Son père non seulement vend des livres, va en éditer, mais il joue du piano, sa mère chante, lui peint aussi, donc ouais, un ouais. milieu, disons, à la fois cultivé et artiste.
Et dans lequel la musique a vraiment beaucoup
la
de place.
La musique, exactement, a un rôle fondamental, puisque tous les enfants vont apprendre un instrument, ce qui se faisait dans la bourgeoisie, mais de façon assez poussée pour que et Nathalie et sa sœur Hélène, qui sera également violoniste, entrent au conservatoire à l'âge de 8 ans. Hélène est même un petit peu plus jeune. Mmh. Donc, études au conservatoire, pas d'école,
oui.
ce qu'elle a beaucoup, beaucoup regretté. et en y voyant une injustice par rapport à sa qualité, si on peut dire, fille. Et donc le conservatoire où elle joue, elle apprend le violon et le piano. Donc voilà son passé. Et très jeune, elle est mariée. Alors, est-ce qu'on la marie ou est-ce qu'elle choisit, elle, d'épouser un scientifique qui est Alexandre Bauer, qui habite aussi dans ce quartier, un peu le triangle d'or, si vous voulez, de Vienne, et qui est un veuf, père de 3 petites filles.
Oui, c'est étonnant parce qu'on apprend, en tout cas on découvre qu'elle avait quand même une vision de la femme assez en avance sur son époque, très féministe, assez militante. Et à 17 ans, elle épouse quelqu'un qui a effectivement veuf 3 filles, qui a 22 ans de plus qu'elle. Et on imagine que son rôle va être quand même plutôt à la maison que dans les cercles artistiques et intellectuels.
Oui, alors c'est un peu... il est possible qu'on ses parents aient choisi de la marier parce qu'elle a vraiment une nature rebelle.
Rebelle, c'est ça, oui.
C'est intéressant, c'est un personnage intéressant par ce côté-là, parce qu'elle est à la fois rebelle, mais elle est douce et calme. Mais c'est une vraie rebelle. Donc, elle va en effet épouser ce scientifique, mais on la voit assez tôt, tout de même fréquenter ces cercles avant-gardistes, végétariens, socialistes, etc., où elle se fait un certain nombre d'amis, et que fréquente aussi Gustav Mahler. Mais apparemment, à ce moment-là, ils ne se croisent pas. Peut-être n'y va-t-elle pas si souvent que cela. En tout cas, ce sera son groupe d'amis toute sa vie, ce milieu. Donc voilà la femme qu'elle est, c'est-à-dire c'est une grande femme, très belle dans sa jeunesse. Les photos qu'on a sont un petit peu plus tardives, là 40, 45 ans. Mais et en même temps, cette femme qui a 3 petites filles qui ne sont pas les siennes à élever. Ça va pas durer si longtemps que ça, puisqu'au bout d'une dizaine d'années, elle se sépare de son mari et ils divorceront un petit peu plus tard.
Et alors la rencontre avec Mahler, comment se fait-elle? Parce que là, j'ai cité en introduction, ils se sont croisés, ils n'ont pas échangé de mots, ils sont vus pour la première fois. Quand est-ce que cette rencontre, quand est-ce que leur amitié va commencer vraiment à démarrer? Est-ce que c'est quand Mahler est en poste à Budapest?
Alors, ils se croisent un petit peu avant. Ils se croisent à plusieurs reprises, justement, chez des camarades, des anciens camarades du conservatoire, dans des milieux plutôt musiciens, et donc tout ce groupe avant-gardiste. Mais, donc, il y a déjà quelque chose qui se dessine, puisqu'elle parle d'affinité élective. Ils ont une commune admiration pour Goethe, et voilà, donc ils ont quand même des sujets, mais ça reste assez lointain. Et puis, elle le rejoint en 1890 à Budapest, et là c'est une chose assez merveilleuse. Finalement, ils sont tous les deux dans une passe très difficile pour des raisons différentes, plutôt sentimentales pour elle, professionnelles pour lui, puisqu'on sait que ça a été tout de même
il a du mal avec l'orchestre, avec
beaucoup de déceptions. Je pense qu'il y a eu un facteur déceptif dans cette et donc il l'a rejoint, et là, alors qu'il se sent complètement isolé, il a une jeune femme qui l'écoute. Et ça, c'est quelque chose que Nathalie sait très bien faire. Et elle l'a beaucoup écoutée avec attention, avec admiration, et ensuite avec passion, il faut le dire. Donc voilà ce qui les réunit à Budapest. Ils marchent.
Ils adorent tous les deux la nature et la marche,
c'est ça ? Ils sont fanas tous les deux de marche, exactement, et de nature. Donc ils se trouvent, si vous voulez, sur des sujets communs, des points communs, et avec des plaisirs partagés, et puis la musique qui les réunit, bien sûr.
Ging heut Morgen übers Feld, trat noch auf den Gräsern hin, sprach zu mir der lustige Fink, ei du Geld. Guten Morgen, ei Geld, du wirst mich eine schöne Welt. Thank you.
Ging heute Morgen übers Feld, c'était un extrait des Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler, Jesse Norman, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Bernard Haitink. Evelyne Bogdanow, comment est-ce que vous avez procédé pour ce travail, pour aller à la rencontre de ces deux êtres, Mahler et surtout Nathalie Bauer-Lechner, que l'on connaissait assez mal? On le sait qu'elle a laissé des carnets, qu'elle a consigné tous ses souvenirs passé avec Gustav Mahler, qui ont été traduits en français il y a une vingtaine d'années, je crois. De quel matériau, de quelle source êtes-vous parti pour établir ce récit biographique? D'ailleurs, je ne sais pas comment il faut qualifier votre travail, puisque vous intervenez également, il y a vos souvenirs personnels qui sont mêlés au récit, vous prenez parfois la parole à la première personne, vous faites dialoguer Gustav et Nathalie. Comment vous avez procédé? Alors, est-ce que vous avez utilisé donc les carnets de Nathalie Bauer-Lechner?
Oui, je vais partir des dialogues. En fait, oui. Je n'ai inventé aucun dialogue parce que oui. je ne le fais jamais. Je n'écris pas des biographies romanesques, si vous voulez, romancées.
Oui, romancées, voilà. Oui.
Donc, en fait, ce sont des extraits des carnets que j'ai regroupés, si vous
Bien
voulez,
sûr.
Dans un chapitre. Mm-hmm. Et ce sont des phrases de Mahler et des questions soit induite, soit qu'elle lui pose directement. Donc, ces cahiers de Nathalie Bauer-Lechner ont eu un sort un peu, on va dire, tourmenté. Il en manque beaucoup. Il y en avait probablement une trentaine. Elle les avait fait circuler librement dans Vienne, autour de, voilà, de tout cet entourage qui était celui de Mahler et le sien. Finalement, ils ont été. Il y a eu une première édition qui a été faite peu de temps après sa mort, mais ça, déjà, ouais. Enfin, vraiment très expurgée. Mm-hmm.
Elle meurt en 1921.
Donc en 23, la première édition, très très expurgée parce que et Alma et la sœur Justine Rosé,
la sœur de Mahler, l'épouse de Mahler, oui.
Pardon,
Alma, l'épouse de Mahler. Oui. Voilà. Heureuse de voir.
Non, ouais. et beaucoup de gens, je pense, n'étaient pas très chauds à l'idée de se retrouver plus ou moins épinglés, sûr, car ouais. Nathalie est quelqu'un de comme ça, qui a son franc parler. Qui n'a peur de rien, qui se sent libre d'écrire ce qu'elle veut. Bon, donc je passe sur tout cela. Il y a, en français, il y a en effet une édition qui a été faite d'extraits qui s'appuie sur une deuxième édition de ces cahiers. En 1984, il y a eu une deuxième édition, ça a été traduit. Mais en fait, ce dont on dispose est plus large malgré tout. Donc j'ai travaillé à la médiathèque musicale Mahler, qui est en travaux en ce moment, mais qui va rouvrir vraisemblablement en septembre, je crois.
Qui est à Paris dans le 8e arrondissement.
Qui est à Paris dans le 8e arrondissement. Là, c'était absolument merveilleux, parce que c'est l'ancien hôtel particulier d'Henri Louis de Lagrange.
Le biographe de Mahler.
Ouais. Et qui a vécu, on peut dire, vraiment dans l'univers de Mahler. Donc, quand vous travaillez là, vous êtes imprégné. C'est très étonnant de travailler dans ces lieux. Voilà, donc j'ai travaillé avec cela, j'ai travaillé donc avec ce tapuscrit en allemand, qu'il faut débroussailler. Il y avait également de la correspondance que j'ai pu retrouver, en particulier pour la deuxième, toute la partie de la vie de Nathalie après sa rupture, on peut dire, avec Mahler, c'est-à-dire après l'entrée d'Alma dans la vie de Mahler.
Évelyne Bloch-Dano, vous dites rupture. C'est-à-dire, quelle était en fait la nature de la relation entre Nathalie Bauer-Lechner et Mahler?
Alors, on
c'était
sait beaucoup.
Une amitié ou une amitié un peu amoureuse ou au-delà, je ne sais pas.
C'est au-delà. C'est-à-dire, d'accord. En tout cas, du point de vue de Nathalie, il n'y a pas de doute.
D'accord.
Il y a vraiment un amour qui vraiment ressurgit, enfin, à travers ses pages, à travers ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et ce qu'elle espère, évidemment, de Mahler. On s'est évidemment demandé pendant longtemps quel avait été le degré d'intimité, si je puis dire, entre eux. Une lettre qui a été retrouvée il y a quelques années, je crois que c'est 2011, mais je dis de mémoire, qu'elle a écrite en 1917 à Hans Rill. Elle lui a écrit cette lettre à sa demande. Hans Rill lui demande de parler de Mahler et les femmes. Et elle dit, bon, je voulais pas aborder ce sujet dans mes écrits, mais là, maintenant, je peux le faire. Et là, elle donne des précisions. Il y a eu véritablement une intimité amoureuse, mais très ponctuelle, avec 10 ans s'écoulant entre les deux sessions, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on comprend bien qu'elle attend quelque chose que Mahler n'a pas l'intention de lui donner. Je pense qu'il l'aime comme une sœur ou...
D'où le titre de votre
oui,
livre, alors.
Oui, parce que c'est tout. L'âme sœur, c'est vraiment, elle a une compréhension profonde de Gustav Mahler. Mais c'est pas pour autant que lui tombe amoureux. Quand on voit, bon, c'est pas le sujet, hein, je vais pas faire de... Mais quand on voit le type de femme dont il tombe amoureux, ce sont des divas, ce sont des femmes avec, vous voyez, une espèce de force de la nature qui parfois d'ailleurs le traite pas si bien que ça. Donc voilà. Donc Nathalie, c'est plus pour lui probablement une grande amie très proche.
Mein Begehren dunkel auf seinen Grenzen bricht, so lass uns selber nicht verzieren,
Jennifer Tani, soprano, Annelise Gastaldi au piano. C'était Anne Sturm, leader d'Alma Mahler. Evelyn Bloch-Danous, cet enregistrement est extrait d'un, je sais pas comment il faut dire, un livre-disque qui vient de paraître, qui s'appelle Mahler Intime, publié chez Elstir et qui réunit le trio George Sand, Jennifer Tani, qu'on vient d'entendre, et Violaine Desperroux. Vous êtes impliqué dans cette aventure. Il y a à la fois une biographie, enfin des éléments biographiques sur Mahler, sur Alma, Schoenberg aussi qui est impliqué. Quel est, en quelques mots, ce projet?
C'est un très beau projet. Le trio Sand, c'est aime travailler avec, si vous voulez, d'autres artistes ou d'autres des écrivains. Et là, voilà, ça a été la réunion d'un certain nombre de personnes autour de ce projet. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'écouter Mahler en musique de chambre. Fait percevoir des choses qu'on ne perçoit pas forcément dans les versions orchestrales.
Tout à fait, oui. Dernière chose, Evelyne Bloch-Danous, on revient en quelques secondes, je laisse aux auditeurs le soin de découvrir votre livre. Nathalie Bauer-Lechner a appris le violon, l'alto, elle deviendra musicienne d'un assez haut niveau. Il faut le rappeler.
Oui, elle a fait partie pendant presque 20 ans d'un quatuor de femmes très estimé, le quatuor Soldatruger, 4 femmes. Elles vont traverser l'Europe, elles vont jouer sur les plus grandes scènes européennes. Et elle est donc altiste au sein du quatuor. Et c'est une dimension du personnage qui me paraît aussi bien sûr essentielle.
Très bien, merci beaucoup Evelyne Bloch-Danous. Je rappelle le titre de votre livre, L'âme sœur, qui vient de paraître chez Stock. Et puis il y a également une série de 5 émissions d'une heure à écouter en podcast sur France Musique, qui s'appelle également L'âme sœur, qui a été diffusée début mars. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie d'Emmanuel Bigan pour écouter la symphonie neuronale et savoir pourquoi la musique est indispensable au cerveau. D'ici là, excellente semaine et excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.